Europe 1.
Bienvenue dans la France Bouge Academy. Ici, vous le savez, on découvre, on innove, on imagine et on se jette à l'eau aussi. Nos micros sont ouverts à tous ceux qui ont des projets et qui veulent se tester pour les accueillir. Elle est là, comme chaque jour. Bonjour Elisabeth Assayag.
Bonjour Raphaël et bonjour à tous.
Notre coach est là aujourd'hui aussi. C'est Evelyne Platnik-Cohen qui nous accompagne. Bonjour.
Bonjour à tous.
Présidente fondatrice de Booster Academy. Et puis pour évaluer les projets avec nous aussi, Delphine Villuendas. Bonjour.
Bonjour Raphaël, bonjour à tous.
Merci d'être avec nous de Founders Factory, l'incubateur Founders Factory à Paris. Vous êtes directrice du Corporate Development, hein, c'est bien ça. Face à nous, il y a Alexandre Lucas. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Vous avez 23 ans. Je vais vous demander de vous rapprocher un tout petit peu du micro. Et vous avez fondé Estampille. Vous êtes depuis un an incubé à l'université de Rennes. Et votre ambition, c'est de lancer des chaussettes en matière recyclée. Qu'est-ce qui va me faire acheter vos chaussettes plutôt qu'une autre paire? Vous avez 1 minute 30 pour tout nous dire.
Aujourd'hui, je vais vous parler d'une histoire grave. Pour produire des vêtements, il faut plus produire des vêtements.
Allez-y, vous avez tout votre temps. On
aujourd'hui,
vous
je vais vous parler d'une histoire très grave. Pour produire des vêtements...
Regardez-moi, ça va bien se passer. Pour produire des vêtements, qu'est-ce qu'il faut?
Il faut...
De l'eau.
Voilà. L'industrie textile, ça utilise beaucoup d'eau. Mm-hmm. Mais c'est pas tout. Ça a aussi une grosse empreinte carbone. Moi, j'ai décidé d'agir. Donc, j'ai décidé de commencer par les chaussettes. Mon projet, c'est les chaussettes estampillées. Donc, aujourd'hui, l'industrie textile utilise plus de 500 litres d'eau pour produire une seule paire de chaussettes. Estampillées utilisent moins de 5 litres d'eau. Vous vous rendez compte, 500 litres, c'est 5 litres à la place de 500 litres. C'est quand même pas négligeable. Alors, vous vous demandez sûrement c'est quoi la solution.
Oui.
Et bien la solution, c'est le recyclage, puisqu'on recycle les déchets textiles et les bouteilles en plastique. Mais c'est pas tout. Les chaussettes estampillées sont tricotées en France, ce qui permet de réduire l'empreinte carbone. Donc si vous recherchez des chaussettes sympas pour le look, mais aussi pour l'environnement, optez pour les chaussettes estampillées. D'ici là, si vous voulez suivre l'aventure d'Estampilles sur les réseaux sociaux, vous pouvez suivre sur Instagram et Facebook.
Alors, vous avez le trac, hein, on l'a entendu, oui, là, Alexandre, mais c'est pas grave.
Je me suis entraîné, mais
c'est très bien
c'est
de l'avoir
déjà
fait.
Très bien.
On a plein de questions, hein, oui, de toute
sûr,
manière, donc ne vous inquiétez pas. On va faire le tri dans tout ce que vous venez de nous dire, parce qu'il y a quand même des choses importantes. C'est d'abord cette économie d'eau. Moi, je me tourne vers Evelyne et vers Delphine. Qu'est-ce que vous pensez du projet, même si pour l'instant, on ne sait pas forcément tout. Evelyne ou Delphine, qui a envie de se lancer?
Allez, et bien volontiers. Le projet, je trouve, est très intéressant pour plusieurs raisons. Je pense qu'il y a un vrai momentum en ce moment sur le recyclage et le traitement des déchets plastiques, c'est certain. Et on se pose la question de la deuxième vie. Donc effectivement, en termes de timing, je pense que votre projet Estampille arrive à un bon moment, qu'il y a une vraie volonté au niveau des consommateurs et puis de toute l'industrie. Il y a une prise de conscience. On en a beaucoup parlé cet été et je pense qu'on va continuer à beaucoup en parler. Donc ça, c'est très bien. Après, effectivement, dans ce genre de situation, on arrive aussi à un moment où il y a beaucoup de projets qui se lancent sur la même vague. Et donc, il faut regarder un petit peu quels vont être les facteurs de différenciation pour le consommateur entre Estampille et un projet qui pourra aussi utiliser les mêmes codes.
Donc qu'est-ce qui fait que effectivement je vais plutôt me tourner vers Estampille plutôt qu'un autre projet qui va ressembler au vôtre, Alexandre?
Aujourd'hui en France, il existe de nombreuses marques.
Oui.
La grande différence, c'est le Made in France, mais surtout le coton recyclé, parce qu'il y a beaucoup de marques qui utilisent du coton classique ou du coton bio, mais la grande différence, c'est vraiment le coton recyclé qui permet de diminuer l'impact sur l'environnement, que ce soit sur l'eau ou sur les pesticides.
Et vos chaussettes, vous l'avez dit, elles sont made in France, c'est-à-dire qu'elles sont fabriquées dans l'usine Brousseau, c'est ça, dans le Limousin?
Exactement. Donc le recyclage est effectué en Espagne et après le fil est envoyé à Brousseau, dans l'usine Brousseau, où les chaussettes sont tricotées.
Evelyne?
Alors c'est très intéressant, donc je suis tout à fait d'accord avec Delphine. Je pense que ce sont des projets qui arrivent au bon moment parce qu'on a envie aujourd'hui d'avoir un impact, en tout cas de diminuer l'impact qu'on a sur la nature. Donc le projet arrive au très bon moment. Maintenant, moi, mon vrai sujet, c'est le mode de distribution. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez un produit plutôt malin, plutôt joli, ce qu'on peut voir, hein, c'est un joli
oui,
produit.
Oui, il est avec nous. Hein,
très à
produit,
la mode, mais... voilà. Mais comment vous allez le distribuer? Est-ce que vous avez pensé à des modalités de distribution un petit peu originales, type abonnement, tout ce qu'on trouve, box, ou etc., qui vous permettent d'aller beaucoup plus vite dans la distribution.
Donc, aujourd'hui, donc, on n'a pas pensé à ce genre de distribution. Donc, on va rester sur une distribution plutôt classique, donc la vente sur Internet. Et pourquoi pas par la suite penser à d'autres, à se différencier notamment sur des distributions différentes.
Ce qu'on n'a pas dit, c'est que vous allez lancer une campagne de financement participatif hein, pour pouvoir mettre les premières chaussettes finalement sur le marché. Ça va démarrer bientôt. Ça veut dire que pour l'instant, on en est encore à l'étape d'avant. Les chaussettes ne sont pas encore sorties d'usine.
Exactement. Donc le lancement est prévu pour courant octobre. Donc la date n'est pas encore fixée. Mais on prépare le lancement donc, pour courant octobre pour ensuite pouvoir faire des précommandes et ensuite lancer la production puisqu'il faut des minima de production.
Donc la paire de chaussettes qui est là, par exemple, Alexandre, elle va sortir à combien? Je vais la trouver à combien?
À 14 euros.
14 euros.
C'est ça.
Evelyne, Delphine, est-ce que ça vous semble un prix correct pour le travail qui est derrière?
14 euros, je pense que c'est le prix moyen d'une paire de chaussettes. Il y en a des plus chers, il y en a des moins chers. Moi, la question qu'on me poserait, c'est est-ce qu'elles tiennent bien? Parce qu'on déteste les chaussettes qui descendent. Donc, au-delà du prix, voilà, est-ce qu'elles tiennent bien? À 14 euros, si elles tiennent bien, je pense que c'est un juste prix.
Delphine?
Moi, je n'ai pas tellement d'avis sur le prix. Je pense que ça dépend un petit peu de la clientèle qu'on cible. Si on cible une clientèle plutôt jeune ou une clientèle ayant déjà pas mal de revenus. Moi, ce qui m'a surtout surpris sur la paire de chaussettes, c'est que quand j'ai préparé l'émission et que j'ai vu des chaussettes en plastique recyclé, je m'attendais à quelque chose d'assez peu confortable.
Ouais,
et puis finalement,
touche,
on se rend compte que c'est très
agréable.
Tout à fait, c'est très agréable. J'étais très surprise en touchant les chaussettes qu'effectivement, il y a une part de plastique aussi importante. Peut-être vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur la matière première, effectivement, l'alliage coton recyclé. Et je ne sais pas aussi s'il y a une labellisation ou un suivi en tout cas, une traçabilité des éléments, parce que d'après ce que je comprends, vous outsourcez, enfin vous passez par un partenaire pour le recyclage. Comment est-ce que vous assurez effectivement que la matière première que vous recevez derrière, elle vient bien de matière intégralement recyclée?
Donc c'est un peu compliqué de tracer toutes les fibres qu'on utilise, puisqu'on prend les chutes de production, donc dans ce cas on peut les tracer, mais lorsqu'on prend des chutes, des anciens vêtements, c'est encore plus compliqué de tracer chaque vêtement, donc il n'y a pas de traçage particulier. Mais donc, c'est à partir de coton recyclé, donc de chute de production, comme je viens de le dire, et de vêtements recyclés. Et comme c'est des chassons broyés, donc les fibres sont cassées. Afin de rigidifier tout ça, donc on prend les bouteilles en plastique, on les recycle, pour ensuite rigidifier la fibre de coton, qui est principalement en coton, mais avec du polyester recyclé.
Donc c'est tout ça qui part d'abord en Espagne et qui revient ensuite?
Voilà, c'est ça. Donc en Espagne, ils collectent tous les déchets, que ce soit les déchets textiles ou plastiques. Ensuite, donc, il y a tout le process de casser les fibres, les écraser, puis ensuite former un nouveau fil, et ensuite renvoyer le fil en France, où ensuite les chaussettes sont tricotées.
Alexandre, on a une idée du marché, de l'ampleur du marché aujourd'hui pour pouvoir créer ces paires de chaussettes?
En soi, tout le monde peut porter des chaussettes estampillées.
Mais sur la matière première, c'est sans fin?
Bien sûr, ce n'est pas sans fin, mais aujourd'hui, il y a tellement de déchets textiles et plastiques. J'ai de longues années devant moi avant que tout ça soit fini.
En tout cas, si j'ai une petite recommandation, parce que je pense qu'en dehors de la chaussette, son originalité, il faudrait penser à la distribution et avoir quelque chose encore plus impactant. Et je vous donne juste une petite idée comme ça qui me passe par la tête, c'est pourquoi pas vendre par trois les chaussettes.
La fameuse qui est toujours toute seule.
Voilà, qui disparaît, on ne sait pas où. Et donc, ce serait drôle d'avoir un concept en disant je vends les chaussettes par trois, au lieu de les vendre par deux, par exemple.
En tout cas, c'est toujours une idée à prendre. Merci Alexandre d'être venu dans la France Bouge Académie. Il est midi 39.
Europe 1.
Vous restez avec nous. Et si demain, vos meubles, mobilier de maison, mais peut-être mobilier extérieur aussi, étaient en déchets plastiques? C'est ce que propose, vous allez voir, Rue de Paris. À tout de suite. La France Bouge Académie, c'est le rendez-vous des jeunes entrepreneurs. Vous avez un projet, venez nous en parler et recevez les conseils de nos coachs et nos investisseurs en direct sur Europe 1. Rejoignez-nous en nous écrivant par mail e1-lafrancebouge@europe1.fr. Écrivez-nous également sur Twitter @ou #Europe1. Raphaël.
La France Bouge Académie, effectivement, c'est votre rendez-vous. Il suffit d'être, vous le disiez, porteur d'un projet, de nous écrire. Et ensuite, eh bien, la porte du studio va s'ouvrir.
on va vous conseiller, on va vous challenger aussi, on va vous aider également. Bref, on essaye à notre niveau d'être utile. Aujourd'hui, c'est Valentine Darcourt qui est avec nous. Bonjour.
Bonjour Raphaël.
Merci d'être là. Face à vous, il y a Evelyne Platnik-Cohen, notre
bonjour,
coach, et Delphine Villuendas, directrice du corporate développement de l'incubateur Founders Factory. Vous avez 22 ans et vous êtes l'une des fondatrices de Rue de Paris. Vous êtes étudiante à l'ESSEC et votre idée, c'est de créer du mobilier design à partir de déchets plastiques. Vous avez 1 minute 30 pour tout nous dire.
C'est exactement ça. Aujourd'hui, en France, il y a 4 millions de tonnes de déchets plastiques qui sont produits chaque année et seulement 22% sont recyclés. Le reste est incinéré, mis en décharge ou fini dans l'océan. On a vu les photos cet été. Pourtant, le plastique, c'est un matériau qui est extrêmement léger, hermétique, qui prend les couleurs et les formes qu'on lui demande et surtout qui est extrêmement durable dans le temps. C'est pour ça que c'est un matériau extrêmement précieux et utile pour d'autres secteurs comme celui du mobilier. Et c'est l'idée de Rue de Paris. Avec Rue de Paris, nous lançons un nouveau concept, des tables 100% personnalisables et créées à partir de déchets plastiques récoltés d'Île-de-France. Le client choisit les couleurs qu'il souhaite en fonction des déchets que nous collectons. Il choisit ensuite la taille de sa table et la monture qui habillera la planche. Toutes nos planches sont produites dans nos ateliers à Saint-Denis et surtout, chaque motif que nous créons est unique. Alors, Rue de Paris, c'est le style au service de l'environnement.
Voilà pour le pitch. Hein. Vous êtes même en dessous de la minute 30. On va se tourner tout de suite vers Delphine et vers Evelyne. Non, mais c'était efficace. Delphine, Evelyne, une remarque, une question pour Valentine ?
Alors, d'abord, bravo aussi, hein, parce que
merci.
C'est des beaux concepts. Vous êtes tous les deux quand même très, très jeunes. Donc, bravo, parce qu'on a des idées, mais les mettre en œuvre, y aller voir... au de vos 22, 23 ans, aller voir des usines, des partenaires et qu'on vous suive, c'est déjà extraordinaire. Alors, deux remarques. Une sur le nom de l'entreprise, mais on en a discuté hors studio, je pense que vous allez changer. Mais on le dit
aussi.
Mais
nous, on ne sait pas.
Vous le savez
Rue
pas.
Rue de Paris, moi, ça m'a interpellée aussi.
Et puis, je préfère le dire parce que c'est vrai, beaucoup de jeunes aujourd'hui veulent employer des mots communs. Mais le problème, c'est qu'après Rue de Paris, regardez sur Internet Paris. Vous allez être avalé par ce que représente Paris sur Internet. Donc, c'est important d'avoir des noms très originaux et sur lesquels vous n'allez pas avoir trop de compétition sur Google parce que ça coûte très, très cher l'emplacement sur Google.
Mais pourquoi est-ce que vous avez choisi Rue de Paris ?
Oui, c'est vrai. Alors, justement,
parce que
Rue
moi,
de Paris...
je pensais que c'était du mobilier urbain.
Alors, ça a été une des idées de départ, d'ailleurs. C'est intéressant que vous disiez ça. Rue de Paris, le nom, c'est né d'un coup de cœur. Tout a commencé quand Alexandre, mon associé, en se promenant dans les rues du 11e arrondissement, on s'est rendu compte de la quantité de plastique qui était présente dans les rues. Et il s'est dit, qu'est-ce que ça ferait si je les ramassais et de voir ce que je peux faire comme création artistique chez moi. Il a commencé à les fondre, au départ, dans son four de cuisine, dans son grille-pain. Il a vu que les motifs étaient extrêmement intéressants. Et c'est comme ça que le nom Rue de Paris est né.
On ne demandera pas de nouvelles du grille-pain.
Il y a une histoire, il ne doit pas être bien en forme. Delphine
Oui, le secteur du mobilier, moi, c'est un secteur que je connais un petit peu. Et c'est vrai que j'étais extrêmement surprise de voir que vous arriviez à faire de la production made in France sur ce secteur. On n'a pas une grande tradition en France de la fabrication mobilière. C'est bien dommage. On trouve des sociétés qui le font avec des meubles en bois. Effectivement, ça correspond à une envie aussi des familles de s'équiper avec des meubles à long terme. Je pense que l'expérience client est vraiment au cœur de votre société. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce qui vous a amené et comment vous avez réussi à faire ces meubles en France ?
Alors justement, vous avez raison, le Made in France dans le mobilier est en train de se développer. Pas encore assez, mais c'est ça ce qui est très intéressant. L'intérêt du plastique, c'est que justement la matière première est peu chère et on peut donc se permettre d'associer des concepts beaucoup plus haut de gamme comme du sur-mesure et du travail fini à la main.
Ça veut dire qu'une table sur-mesure, pardon Valentine, aujourd'hui elle va coûter combien ? Vous avez une idée ?
Alors par exemple, sur la table basse, on est autour de 500 euros. Sur une grande table de salle à manger qui fait jusqu'à 2 mètres, on atteint les 1000 euros à peu près, ce qui nous place dans le secteur du haut de gamme, luxe, accessible. Justement, ce que je n'ai pas précisé dans le pitch d'ailleurs, c'est que toutes nos planches sont produites à Saint-Denis. Et nos planches, une fois qu'on les sort du moule et du four, elles sont retravaillées à la main avec les techniques empruntées au bois.
Ça sort comme des grandes plaques, c'est ça? Et puis ensuite, vous allez couper, découper à la mesure.
Alors, exactement. Ça, c'est le principe. Pour l'instant, on était surtout sur la phase de prototypage. Aller tester, voir les créateurs de mobilier si le concept plaisait. Et là, justement, on compte donc pour octobre s'installer dans des nouveaux locaux avec des capacités de production bien plus grandes pour sortir des grandes plaques de salle à manger avec des fours de 2 mètres.
Vous venez tout juste de déposer les statuts. Les premières tables, elles seront sur le marché quand?
On espère pour décembre, janvier.
Et vous allez lancer une campagne de financement participatif?
C'est ça. Alors là, pour ceux que ça intéresse, on commence déjà à sonder les premières précommandes sur notre site internet. Donc, @rues-de-paris-design.com. Et c'est ce qui va déterminer si effectivement on lance via des précommandes ou alors si on s'oriente plus vers du B2B. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment l'expérience client. Et donc, effectivement, les campagnes de crowdfunding sont très intéressantes pour ça. Et on aimerait en sortir une pour décembre.
Evelyne, Delphine, convaincue par le projet de Valentine?
Oui, mais je trouve que vous êtes très orientée produit. Mmh. Et si j'avais votre âge, je ferais un petit peu différemment dans ma communication. C'est-à-dire que j'aurais envie de fédérer des communautés de gens. Et pas, d'arrêter de parler du produit, etc. Pour lui, c'est très intéressant. Mais de se dire, déjà, il y a plein de gens qui pourraient venir vous apporter du plastique, d'une certaine façon. Donc, de fédérer des communautés. Mais vous avez plein de concepts dans le mobilier, comme le minimaliste, les petites maisons. Enfin, plein de séries, d'ailleurs, que vous retrouvez sur Netflix ou ailleurs, qui vous montrent des concepts qui sont très, très novatrices, qui viennent des États-Unis. Et j'aurais envie de porter ce type de projet en plus, ce qui vous permettrait d'accélérer considérablement votre communication et puis de fédérer autour de vous des centaines, des milliers de personnes en dehors du pur produit. Voilà, c'est ça que j'aurais envie de faire à 22 ans, si j'avais 22 ans.
Convaincue ou pas, Delphine?
Oui, tout à fait, tout à fait. Je me demande, la table que vous lancez, les tables, c'est un premier produit parce qu'effectivement, aujourd'hui, faire une planche en plastique, c'est peut-être ce qu'il y a de plus facile pour commencer.
Oui.
Est-ce qu'avec votre matière, tous les autres meubles sont accessibles? Est-ce que demain, vous pouvez faire une chaise, vous pouvez faire des lampes?
Oui, alors après, tout dépend de ce qu'on lit, avec quoi on habille les planches. Par exemple, une chaise, on peut faire la monture en fer avec le dossier et le siège en rue de Paris.
Tout est possible.
Ça ne fait que commencer. Exactement, et c'est le moule qui va déterminer aussi la forme qu'on va lui donner.
Merci Valentine d'être venue.
Merci Raphaël,
aujourd'hui sur Europe 1. Merci à Delphine dont c'était la première avec nous. On était ravis de vous avoir.
Merci. Il est 12h50. Europe 1.